Quelque part à la fin du mois d'avril, il sera ici même dans la région pour nous présenter une pièce de théâtre. Il nous en a parlé il y a quelques semaines. Guillaume, le métier vierge est en studio. Il passe comme, tu sais, c'est comme s'il t'ont parachuté ici. T'as atterri sur... Allô, Guillaume?
Allô, je suis atterri sur le toit.
De la place Royale. Ouais. T'imagines la cascade, toi?
Ça serait pas dangereux à la condition que tu te dépasses pas. Tu sais, si tu passes tout droit,
ah oui, faut
là,
pas,
tu tombes l'autre. C'est ça.
Non, faut pas passer tout
droit. Faut pas passer tout droit.
T'en fais pas mal encore.
J'en fais encore. Je fais une centaine de sauts, moi, environ, par année.
100?
Ouais. Puis ça, c'est pas beaucoup. Pour un parachutiste, c'est pas beaucoup. Parce que ben, ceux qui sont dans le domaine, alors les instructeurs qui vont travailler à temps plein l'été chez nous vont faire 300-400 sauts par année. Alors, moi, mon petit 100 sauts, là, c'est très respectable, remarque. Puis,
ben là, écoute, ça prend du temps.
Ça prend du temps. Puis c'est qu'il faut garder la main. T'sais, moi, je suis maître tandem, mais je suis aussi coach. Je suis aussi juste parachutiste. Quand je dis juste parachutiste, ça veut dire que quand tu veux sauter avec d'autres gens parachutistes, il faut que tu gardes la main, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois à ton affaire parce que ça se passe vite. Hein? En 50 secondes, tout se joue. Tout. Ça veut dire que si tu fais une acrobatie particulière, si tu fais une grande formation, plusieurs personnes, on fait beaucoup de formations à grand déploiement, je dirais à 30 personnes en même temps qui se rejoignent dans le ciel. Ça se joue dans les 10 premières secondes pour se rejoindre. Il en reste 40 pour faire des manœuvres, puis après ça, il faut s'éloigner avant d'ouvrir notre parachute. Fait qu'il faut que les gens soient ça accroche, comme on
dit. C'est assez incroyable. Et le parachute, il est plié par qui?
Il est plié soit par moi, soit par un plieur qu'on forme en début de saison. C'est une job d'été. Être plieur de parachute, c'est une job d'été. Il y en a évidemment qui sont récurrents puis qui reviennent régulièrement. Cependant, le deuxième parachute, lui, il est plié par un... On appelle ça dans le jargon un rigger, un gréeur. C'est quelqu'un qui a des cartes supplémentaires de compétences qui, lui, va le plier le parachute de secours. Un peu comme, je dirais, n'importe qui peut mettre de l'essence dans une voiture,
oui.
Mais c'est pas n'importe qui peut installer un sac gonflable. Tu vois la nuance? C'est un peu la même chose. Fait que le parachute principal, c'est pas qu'on le plie tout croche, c'est pas ça, c'est juste qu'on respecte une technique qui est établie, mais le parachute de secours, c'est le dernier qui te reste, alors il faut que ça soit plié par un grand professionnel, je pourrais l'appeler comme ça.
Tu vois le monde vu du ciel, hein?
Tout le temps.
C'est pas la même perspective
non,
que lorsqu'on est sur le plancher des vaches.
Sais-tu pourquoi j'ai mis le parachute quand j'ai sauté la première fois? C'est que je me suis dit, je suis tranquille, je suis seul et je vois la beauté du monde sans la laideur du monde. Parce que vu d'en haut, là, tu pourrais voir un conflit, tu pourrais voir une bagarre, tu pourrais voir des accidents mortels. Vu d'en haut, il n'y a rien qui est dramatique parce que tu es trop loin, tu as trop de recul. Puis c'est ça que ça me fait, moi, le parachute. Quand je suis dans les airs, je fais, oh mon Dieu, je suis bien dans mon univers, je suis tranquille. Quand je dis tranquille, c'est que je suis avec moi-même pendant quelques secondes. Je peux être avec d'autres personnes, mais on ne peut jamais se parler, sauf quand tu es en tandem, mais sinon, tu ne peux pas te parler. Alors, tout le monde est à la même place. Il y a un sentiment d'urgence, il y a un sentiment de sécurité absolue qu'il faut respecter. Puis en même temps, il y a un sentiment de pure liberté. Là.
C'est ça. Puis d'après moi, le buzz aussi que vous prenez à faire ce que vous faites, c'est lorsque quelqu'un va faire son saut la première fois,
oui.
la réaction qu'il a,
oui.
Le feeling, ce qu'il ressent oui. Arriver au sol, même pour vous autres de voir ça, ça doit être tout à fait fascinant.
Bien, quand tu es maître tandem et que tu fais sauter quelqu'un pour la première fois qui est attaché après toi, c'est que tu as la chance de pouvoir recueillir un peu de son émotion et de te replonger dans le bain de ton premier saut à toi parce qu'il ne reviendra jamais le premier saut pour personne. C'est une fois. Mais quand les gens sautent pour la première fois, leur peur, leurs angoisses, leur réaction, leur plaisir. Là, c'est comme si on avait droit de recueillir ça un peu puis de leur envoler un peu d'une certaine façon pour pouvoir le revivre nous-mêmes. Ouais. Parce qu'après plusieurs centaines de sauts, on n'est ni blasé ni tanné, mais on n'a plus la sensation de peur ou de vertige. En fait, le vertige n'existe pas en parachute, là, mais on n'a plus cette sensation-là d'adrénaline. On pense que les gens vont être pris d'adrénaline à chaque fois. C'est pas vrai. Après, l'humain s'habitue à tout. Alors, c'est la même chose pour le parachute. Sauf que quelqu'un qui saute pour la première fois puis tu es attaché après cette personne-là,
oui.
Là, tu ressens
tout. Ah. Hey, là, écoute,
on s'égare, on aime ça.
Mais on pourrait, j'aurais tellement de questions à te poser là-dessus. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur la, je pense que c'était la Deuxième Guerre mondiale, peut-être la première, peut-être la deuxième, où des escouades complètes de parachutistes étaient envoyées sur des zones de guerre,
ouais.
Tu sais, puis ils étaient tirés comme des pigeons en descendant dans le ciel.
Oui.
Tu comprends-tu comment ces gens-là, à cette époque-là, le parachutisme allait être inventé, tu sais, ils développaient des nouvelles techniques. Puis là, ils disent aux gens, là, tu sautes, puis en descendant, là, fais attention, fort probablement qu'il y en a qui vont te tirer dessus.
Puis fais attention, qu'est-ce que tu veux faire?
Ben,
t'es suspendu.
Ben là.
Écoute, t'as une grosse toile, on peut pas te manquer, là. C'est
non.
Sûr qu'ils vont ils vont te pogner ici, te pognent pas toi, ils pognent la toile.
C'est ça. Fait que, regarde, la prochaine fois, on en reparlera.
Certainement.
Tu reviendras. Là, tu fais une petite tournée régionale parce qu'à la fin du mois d'avril, tu viens jouer la pièce dont on s'est parlé la dernière fois.
Oui, fais-toi une belle vie. En fait, je suis en tournée provinciale. Je me promène partout dans le Québec, mais on s'arrête à Trois-Rivières le 27 avril prochain avec cette pièce-là qui s'appelle Fais-toi une belle vie, qui est une comédie. Je dirais, c'est une comédie dramatique, mais un peu satirique. C'est qu'on rit d'un phénomène qui est un peu tabou. On parle du burn-out et on rit avec ce phénomène-là. On rit pas du phénomène en soi, mais on rit d'un gars qui va pas bien du tout dans sa vie. Puis il a la bonne mauvaise idée de s'acheter un chalet avec des amis en pensant que ça va régler ses problèmes, qu'il va avoir du repos et puis que ça va se régler. Mais bien au contraire, les petites habitudes insignifiantes de ses amis vont finir par l'agresser énormément et ça va décupler son malheur déjà bien établi de par le surmenage de trop de travail ou de trop de tout dans la vie. Donc, on s'amuse avec ça. Moi, je fais le gars en burn-out. J'avais le goût de me donner un anti-casting, donc d'aller ailleurs un petit peu dans ce que je suis pas dans la vie. Et je joue avec ma blonde, Émilie, je joue avec ma fille, Charlie. François Chénier joue dans la pièce et a écrit la pièce. Sandrine Bisson, qu'on connaît puis qu'on aime comme ça se peut pas, est à son meilleur là-dedans parce qu'elle, écoute, elle saute des coches à tout bout de champ. Mais elle se dit presque végétarienne, est allergique au lactose, elle veut pas qu'on mange de viande, elle veut qu'on prenne soin de nous. Oui. Mais elle met du vinaigre dans le bol de toilette tous les soirs parce qu'elle a peur des odeurs. Fait que tu sais, il y a des contradictions incroyables. Et elle veut éviter la consommation, mais elle se tient tout le temps au Costco. Fait que tu fais, c'est formidable de voir les humains comme ça. Et la beauté de cette pièce-là, pour moi, c'est un peu ma fille qui peut en récolter les avantages.
Non, mais tu parles du burn-out.
Ouais.
C'est comme un peu la gastro, là, quand tu... ça a le dos large.
Ça a le dos très, très large.
Non, mais le burn-out, qu'est-ce que c'est? Hein? Tu sais, la déprime, là, c'est est-ce que tu as une maladie mentale ou tu as un épuisement professionnel ou tu es tanné de ta vie puis tu veux en changer?
Chose certaine, c'est un trop-plein. Ça, je pense que les...
Il prend-tu des médicaments, ton
burn-out? Il y a eu une prescription de médicaments, mais c'est sa blonde qui les prend.
Ah!
Parce qu'elle, en bout de ligne, ma blonde jouée par Émilie, en plus, c'est super parce qu'on a des moments de chicane épique, des chicanes drôles, dans le sens où on joue pas la comédie, nous autres, on joue dans la vérité. Mais la situation, c'est un peu comme quand quelqu'un s'enfarge. Mm-hmm. Même s'il se casse le nez sur une pancarte en tombant, c'est sûr que tu vas trouver ça drôle si t'es dans un restaurant à l'autre bord de la vitre. C'est un peu ça. Fait qu'on rit de la situation des gens, puis on se dit, pauvres autres. Mais en même temps, ça nous confronte parce que souvent, on se dit, hey boy, je pense que j'en connais du monde de même, ou je suis peut-être un peu comme ça par certains moments dans ma vie. Puis ça, là où on met l'accent, c'est nos amis. Des fois, on choisit nos amis, mais des fois, on oublie de les déchoisir. C'est de leur dire, je pense que maintenant, notre amitié est terminée, notre environnement, là, il n'est plus agréable ensemble. Notre relation est devenue toxique. Puis c'est ça qu'on montre aussi. On montre des amis qui n'ont plus d'affaires ensemble. Ils s'entendent plus.
C'est le fun. Ta blonde, est-ce qu'elle chante?
Elle chante un petit bout juste parce qu'elle se défoule et elle se met à pousser la note. Là. Mais sinon, non. Au début, on s'était dit, on va faire de la danse.
Ouais,
Puis à un moment donné, on s'est juste concentré sur le sujet.
On garde ça simple.
On fait rire le monde, on garde ça simple. On s'amuse sur scène nous autres mêmes.
Ouais.
Puis on est dans une affaire assez originale qui sort de l'ordinaire. On n'est pas habitué de voir des pièces de théâtre comme celle-là. À cause du décor, vous allez comprendre quand vous allez voir la pièce. Là, mais...
puis là, par ailleurs, la carrière, il y avait Cheval-Serpent.
Il y avait Cheval-Serpent. Deuxième saison a été présentée. Oui. C'est terminé. Il n'y aura pas une troisième saison, malheureusement.
Je l'ai
appris dernièrement, mais bon, c'est la vie.
Toujours un peu de pub pour payer l'épicerie.
On paye l'épicerie. On remercie Hyundai, effectivement. Fait que ça va très bien. On approche notre 10e année.
Incroyable. Ça fait déjà 10 ans que tu es associé avec la compagnie. Tu bats pas des records, mais tu n'es pas loin.
Je suis pas loin parce que les porte-paroles, d'habitude, je pense qu'il y a Claude Meunier à l'époque avec Pepsi qui avait fait très, très longtemps.
Family Prix ou Pharma Prix, je me souviens plus.
Ça, je me souviens pas. Je pense que Martin avait fait une dizaine d'années justement avec Hyundai aussi. Alors, regarde. Si on se rend à 12, on va être bien content. C'est tout le temps ça.
C'est bon.
Et puis sinon, il y a un paquet de projets en ce moment. Retour à la télévision bientôt. Je ne peux pas en parler encore, mais retour à la télévision bientôt. D'autres projets de télé, théâtre, peut-être même cinéma. Il y a bien du stock qui s'en vient.
Assez incroyable. T'es rendu à quel âge, toi, Guillaume?
43, moi. J'ai 43.
43, comme tu avais vécu trois vies dans une. Là. Non, mais c'est à partir de... Tu as commencé, tu avais 3, 4, 5 ans.
J'avais 6 ans. Moi, quand j'ai commencé.
Ans. Ouais, bon, t'imagines-tu, toi, de la carrière de quelqu'un qui, aujourd'hui, est à la retraite, fort probablement, là, tu vois.
C'est très drôle que tu dis ça parce que je rencontre toutes sortes de monde. Puis souvent, les gens me parlent de leur retraite. Ils me disent, ah, ben là, moi, je rentre à la retraite. Puis là, ils me disent, je dis, combien de temps t'as été dans ton industrie?
C'est ton 35 ans.
Là, je regarde, je fais 35 ans. Ils disent, ben oui, il est temps que je fasse d'autres choses. Puis moi, je me dis, Ben moi aussi, peut-être qu'il faut que je commence à y penser. Mais en même temps, c'est tellement le fun, ce métier-là. C'est tellement agréable. Je suis tellement privilégié de faire ça. J'aime ça, puis j'aime ça faire de tout. Je veux faire des grandes entrevues, moi. J'aimerais faire ce que tu fais.
Oui.
J'aimerais rencontrer des gens, leur poser plein de questions. Je suis un curieux dans la vie. Fait que un autre projet sur la table. Je veux faire des émissions de télé pour réinventer le monde. Un autre projet sur la table. Fait que ça n'arrête pas les projets. Mais en même temps, je prends du temps pour ma famille.
Écoute, Guillaume, merci d'être passé en studio.
Ben, plaisir.
Écoute, puis il y en a qui veulent s'envoyer en l'air, toi, t'as encore...
Ben oui, venez vous envoyer en l'air à Voltige. On est à Joliette, pas loin d'ici. Ça se fait en
Dans la Naudière, ouais. C'est à côté.
C'est à côté, puis sinon, venez vous amuser sur Faites une belle vie, ça va vous faire du bien.
C'est à la fin du mois d'avril?
C'est le 27 avril à la salle Thompson, évidemment.
Merci beaucoup.
Merci à toi.